Monsieur le ministre, général, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier le ministre Le Drian pour l'offre généreuse de la France d'accueillir ce séminaire à Paris. C'est là une nouvelle manifestation claire de l'engagement fort de la France envers l'OTAN et de l'exemple que la France continue de donner au sein de notre alliance. La France a montré sans tarder sa solidarité en déployant des avions supplémentaires à l'appui de notre mission de police du ciel dans les États baltes. La France apporte aussi une contribution significative à la sécurité de l'Europe et de l'Alliance grâce à ses opérations déterminées au Mali et en République centrafricaine. Et la France reste décidée à investir dans les capacités de défense de pointe dont nous avons besoin, tant à l'OTAN qu'à l'Union européenne. Et bien sûr, l'une des contributions les plus appréciées de la France à notre alliance est notre commandant suprême malien pour la transformation, le général Palomeros. Je tiens à le remercier ainsi que son équipe pour le travail remarquable qu'ils accomplissent au profit de la défense intelligente, de l'initiative d'interconnexion des forces et plus largement pour la réforme de l'Alliance. Je lui suis aussi très reconnaissant d'avoir organisé ce séminaire. Merci beaucoup.
Nous nous retrouvons à un moment particulièrement important pour forger notre architecture de sécurité depuis déjà plusieurs décennies. Les événements à l'est de l'Ukraine nous préoccupent énormément et j'appelle instamment la Russie à faire un pas en arrière, car toute incursion en Ukraine serait une nouvelle escalade, alors que nous appelons à une désescalade. Nous appelons la Russie à retirer les dizaines de milliers de forces qu'elle a amassées aux frontières de l'Ukraine. Nous appelons la Russie à dialoguer avec les autorités ukrainiennes et à respecter ses engagements sur le plan international. Cette crise soulève des questions très sérieuses pour la sécurité dans la zone euro-atlantique. Et le moment est venu d'y apporter les réponses appropriées. Je voudrais vous proposer trois réponses qui me semblent être des éléments clés pour notre sommet au Pays de Galles en septembre. Nous devons préparer un plan d'action d'état de préparation. Nous devons réinvestir dans nos moyens de défense et nous devons renforcer le lien transatlantique. Donc, tout d'abord, nous devons être prêts à tout moment pour pouvoir assurer la sécurité de tous les alliés. La dissuasion, la défense doit être assurée contre toute attaque. Nous devons pouvoir gérer tout imprévu et nous devons gérer les crises à nos frontières avec tous nos partenaires à travers le monde. De Sébastopol à la Syrie, au Sahel, nous nous trouvons dans un monde dangereux où les menaces sont complexes, imprévisibles et liées entre elles. De nouveaux défis comme le terrorisme, les États faillis, les attaques de missiles ou les cyberattaques sont, ainsi que les nouveaux défis comme les tentatives de redessiner les frontières en ayant recours à la force. Bien, pour tout cela, nous devons mettre en place un plan d'action pour améliorer notre état de préparation avec la bonne formation, entraînement, dispositifs de force et capacité. Commençons par parler des entraînements et exercices. Il s'agit de s'assurer que nos hommes, nos plateformes soient bien préparées et fait des entraînements, des exercices ensemble pour pouvoir être déployés ensemble là où cela est nécessaire, au moment où cela est nécessaire. Nous devons continuer à renforcer notre initiative d'interconnexion des forces avec plus d'exercices impliquant davantage de forces. Nous devons mettre à l'épreuve tous les scénarios, y compris la défense collective. Nous devons travailler au renforcement, non seulement l'envoi et le déploiement de forces, mais également s'assurer que ces forces ont bien tous les moyens dont ils ont besoin au moment où ils arrivent, là où nous les projetons. Et nous devons envisager là où nous pourrons être amenés à faire des déploiements pour nos exercices et faire cela entre alliés et avec nos partenaires. Ensuite, deuxième élément d'un plan d'action pour la préparation des forces, c'est la NRF. C'est une force que nous possédons et que nous devons employer. Pour ce faire, nous devons nous assurer qu'une partie de cette force soit à très haut niveau de préparation. Mais cela ne suffit pas. Nous devons revoir le niveau de préparation de l'ensemble de nos forces pour nous assurer que nous soyons à même d'agir dans des délais extrêmement réduits. Bien sûr, on ne peut pas réagir rapidement si on n'est pas positionné au bon endroit. Donc, nous devons également repenser là où nous plaçons nos forces, comment nous les disposons et comment nous les redéployons rapidement quand cela est nécessaire. Et tout cela doit être sous-tendu par des plans de défense appropriés qui soient prêts à être employés. Le troisième élément pour améliorer cet état de préparation, c'est des capacités améliorées. Nous devons faire l'acquisition des capacités de pointe qui nous manquent pour l'instant. Le renseignement, la surveillance, la reconnaissance interarmée, la défense antimissile, le commandement et contrôle aérien et le transport aérien. Beaucoup d'efforts ont déjà été déployés pour combler ces lacunes capacitaires, mais nous devons maintenant renforcer ces programmes. Bien sûr, l'état de préparation ne se fera pas sans un coût. Mais si nos forces ne sont pas préparées pour ce que l'avenir peut nous réserver, notre sécurité va en payer le prix et le coût de l'insécurité sera encore beaucoup plus élevé. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque. Cette crise a montré que notre sécurité ne va pas de soi. Nous devons être prêts à payer le prix nécessaire pour préserver cette sécurité. Au cours des dernières années, réduit leur budget de la défense jusqu'à 40%, alors que d'autres pays, comme la Russie, augmentent leur budget de défense jusqu'à 30%. La réalité, c'est que les Européens se sont privés de moyens de défense en allant trop loin et depuis trop longtemps. À l'OTAN, nous avons fixé un objectif de 2% du produit intérieur brut consacré au budget de la défense. Mais il y a très peu d'alliés qui respectent cet objectif et trop d'alliés sont partis trop loin dans l'autre direction. Donc le moment est venu maintenant de mettre un terme à ces coupes et de commencer à renverser la tendance. Je ne suis pas naïf. Je sais que les budgets de défense ne vont pas être augmentés du jour au lendemain. Mais nous ne pourrons pas avoir une défense collective efficace sans avoir un engagement collectif réel. Et là, je ne parle pas uniquement des moyens qui sont investis, mais également de la manière dont ces moyens sont investis, ce qui veut dire que nous devons établir des priorités pour pouvoir faire l'acquisition de ce dont nous avons besoin pour l'avenir et remplacer ce dont nous n'avons plus besoin. Nous devons rechercher davantage de solutions multinationales. Avec l'initiative Smart Defense, les alliés réalisent déjà des économies et font l'acquisition de nouvelles capacités. Nous devons préserver cet élan. Enfin, ma troisième remarque sera de dire que le lien qui existe entre l'Amérique du Nord et l'Europe reste vital pour notre sécurité commune et nous devons le renforcer. Notre famille transatlantique est fondée sur des valeurs communes et une vision commune d'une Europe pleine, entière et en paix. Nous nous trouvons maintenant au centre d'un ensemble de partenariats à travers le monde, non seulement du point de vue de la sécurité, mais aussi de l'économie, du commerce, et jouons un rôle moteur pour ce qui est de fixer les normes sur le plan international. La crise actuelle représente un véritable défi à notre sécurité commune. Mais l'Amérique du Nord et l'Europe sont côte à côte pour relever ce défi et nous restons unis dans notre riposte ferme. Ces dernières semaines, nous avons vu l'engagement très clair des États-Unis à la sécurité en Europe, des États baltes à la mer Noire. La France et d'autres alliés européens viennent en complément de cet effort. Et le Conseil européen, en décembre, a montré que les pays européens sont prêts à assumer leur rôle et j'appelle tous les alliés à le faire. Le moment est venu de trouver un meilleur équilibre, répartition des coûts et des responsabilités entre alliés, à la fois entre les États-Unis et l'Europe et entre alliés européens. Un meilleur équilibre transatlantique se fonde également sur une meilleure coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. Nous travaillons ensemble avec succès dans les Balkans, en Afghanistan et dans l'océan Indien. Et quand je regarde l'Ukraine, je vois qu'il y a là la possibilité de renforcer encore cette relation. C'est dans notre intérêt à tous d'arriver à stabiliser l'Ukraine. Il y a beaucoup à faire et chacun y aura son rôle à jouer. L'Union européenne peut apporter une contribution considérable pour aider à réformer les services de police et de garde-frontières, alors que l'OTAN pourrait aider à réformer les forces armées, les structures sécuritaires de l'Ukraine, et c'est d'ailleurs ce que l'Ukraine nous a demandé. Une coopération étroite et bien coordonnée entre l'OTAN et l'Union européenne serait dans l'intérêt de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Notre solidarité, c'est notre force. Nous sommes plus forts quand nous agissons ensemble. Ce qui n'est pas en contradiction avec le principe de la souveraineté nationale, bien au contraire, ça le renforce. C'est pourquoi j'ai demandé à trois groupes d'experts de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, de think tanks importants et de jeunes dirigeants de faire des recommandations sur la manière de renforcer le lien transatlantique. Leurs rapports seront prêts au mois de juin et je suis très heureux de constater que beaucoup de ces experts sont présents aujourd'hui pour participer à ce séminaire. Mesdames, Messieurs, la crise actuelle a fait ressortir un certain nombre d'enseignements importants pour notre alliance. Nous devons améliorer notre défense collective, notre état de préparation. Nous devons renforcer nos investissements dans le domaine de la défense et nous devons préserver la vitalité de notre lien transatlantique. Depuis 11 ans déjà, l'ACT a montré qu'il était un moteur de changement. Et en vue de notre sommet au Pays de Galles, les discussions que vous allez mener doivent nous aider à voir comment appliquer ces enseignements. J'attendrai donc avec intérêt vos recommandations visant à s'assurer que l'OTAN reste prête et robuste dans un monde imprévisible. Je vous remercie.